bien la peur. Qu'est-ce qui la génère? Et que génère-t-elle? Et puis, évidemment, il y aurait une question aussi, c'est comment la gérer? Alors bon, c'est un peu souvent ce que les psychologues essayent de faire, et vous avez sans doute travaillé ces questions-là autour, voilà, d'où vient la peur, comment on va la gérer? On peut imaginer que les hommes et les femmes de la Bible, à leur manière, se posaient déjà ces questions, même si ils ne se les posaient peut-être pas comme nous nous les posons aujourd'hui, face à une certaine conjoncture économique, face à la crise, face à la violence, face à des inquiétudes qui sont celles de ce début de 21e siècle. Je dirais même que la peur n'est pas nécessairement au cœur de la révélation biblique, qui se présente plutôt comme une bonne nouvelle, qui a donc pour vocation, au contraire, de nous aider à dépasser, à traverser la peur. Et pourtant, il me semble, à travers les trois textes, c'est un choix, les trois textes que je vais vous proposer de lire ce soir, il me semble que nous pouvons recevoir quelques enseignements ou quelques éclairages, voilà, sur la manière dont la Bible présente la peur. Et la première question que je me suis posée, c'était de me dire, mais au fond, si je regarde la Bible, quand j'ouvre la Bible, où apparaît la peur? Voilà. Quand est-ce que, lorsqu'on ouvre la Bible, quand est-ce qu'apparaît la peur? Et tiens, il serait peut-être intéressant d'aller voir où apparaît la peur. Et vous allez le voir, le lieu même de la peur, tel que la Bible nous le décrit, tel que la Bible le montre pour la première fois, n'est pas neutre. C'est lors de ce qu'on appelle habituellement le péché d'Adam et Ève. C'est là que pour la première fois apparaît le mot de peur. Vous connaissez, premier récit de création, tout est merveilleux, tout est bon, tout était très bon, dit même Dieu, le sixième jour, lorsqu'il crée l'homme et la femme, fleurons de ces créatures, image et ressemblance de Dieu. Deuxième récit de création, qui paradoxalement est le deuxième, mais le plus ancien, là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et vous le savez, cet épisode-là, cette remarque de Dieu va donner lieu à la création de la femme, présentée en l'occurrence comme un secours en face de l'homme, voilà, un secours. Et puis nous en arrivons au troisième texte, troisième récit, troisième chapitre du livre de la Genèse, et c'est là qu'apparaît le mot de peur. Alors je me permets de lire ce passage. Voilà comment commence cet épisode. On nous dit, voilà, le texte biblique dit ceci. Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait faites. Il dit à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme dit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur. Première occurrence de la peur dans la Bible. J'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'allais manger. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Si vous regardez, quelle est la scène ? La scène est relativement simple, vous la connaissez. Bon voilà, Dieu, deuxième récit de création, Dieu donne à l'homme et la femme la possibilité de manger de tous les arbres, du jardin. Mais il y a un arbre où il leur interdit de manger, c'est l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Et le deuxième récit de création se termine sur une note qui est une note tout à fait pacifiée. L'homme s'est extasié devant la femme, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, tout semble parfait. Et voilà que le serpent apparaît. Alors, en hébreu, il y a un jeu de mots, Arum, le serpent, le rusé, mais Arum, c'est aussi le même mot qu'on dit, qu'on va utiliser pour dire nu. En tous les cas, que fait le serpent ? Le serpent, il arrive, voilà, un peu tout à fait astucieux, on dit que c'était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait fait, et il s'adresse à la femme. Il s'adresse à la femme, voilà, on regarde le texte en lui-même, et on ne s'interroge pas nécessairement sur la cohérence du récit, en disant, mais pourquoi s'adresse-t-elle à la femme, alors que la femme, elle n'était pas là quand Dieu avait interdit à l'homme de... Peu importe, ne regardons pas les incohérences du récit, prenons le récit tel qu'il apparaît. Donc il interroge la femme. Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Qu'est-ce qui est intéressant ? Vous allez voir, il y a un phénomène un peu qui va conduire à la peur. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que le serpent commence par gommer le don de Dieu. Voilà. Le serpent, Dieu ne dit pas, alors Dieu vous a dit de manger, que vous pourriez manger de tous les arbres du jardin, mais que de cet arbre-là, vous ne mangez. Non, il commence par dire, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Il oublie le don de Dieu, il fait comme s'il n'y avait pas eu de don de Dieu, et il va focaliser, au contraire, l'attention de la femme sur l'interdit, vous ne mangerez pas. La femme répond très justement. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Ah, elle a raison. Dieu a dit, vous pourrez. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Alors étonnamment, la femme ajoute, et vous n'y toucherez pas. Ce qui n'est pas dans le texte biblique, mais vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le texte biblique ne disait pas nécessairement afin de ne pas mourir, c'était de peur que vous ne mouriez, de peur que, et là on a afin que. Le serpent dit à la femme, et là c'est très intéressant, le serpent revient, si je puis dire, et là il va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il va insinuer le serpent ? Le serpent, il va insinuer que Dieu est un Dieu menteur. Ça va jouer avec la peur. Le serpent va insinuer que Dieu est un Dieu menteur. Voilà. La femme vient de dire, voilà, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Et le serpent répond, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le serpent a commencé par gommer le don de Dieu, il a focalisé l'attention de la femme sur l'interdit, vous savez que c'est très fin ça, et c'est très bien pensé, Il suffit qu'à un enfant, mais des fois c'est même pas un enfant, il suffit qu'on dise, voilà, que c'est une chose est interdite pour qu'il ne voit pas tout le reste. Et qu'il ne voit pas tout ce qu'on a pu lui donner. Je crois que c'est pareil, c'est très humain. Voilà. Donc le serpent commence, voilà, par cela. Et puis une fois qu'il a focalisé l'attention de la femme sur l'interdit, autrement dit qu'il a fait, mais c'est en l'être humain, peu importe la femme et l'homme. Une fois qu'il a fait naître en l'être humain le désir de l'interdit. Or derrière le désir de l'interdit, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière le désir de l'interdit, il y a la difficulté de consentir au manque. Voilà. Tout est donné, mais il y a un interdit. Sauf que le serpent focalise l'attention sur l'interdit. Et l'interdit fait naître le désir de vouloir ce que l'on ne peut pas avoir. Le désir, d'une certaine manière, voilà, oui, d'une possession, on va y revenir après, une possession auquel on n'a pas droit, auquel on n'a pas droit, et donc, d'une certaine manière, la difficulté de consentir à la limite, ou la difficulté de consentir, voilà, au manque. Et là, à cela que fait le serpent, il ajoute en plus que Dieu est menteur. Donc, finalement, Dieu est un menteur. Dieu vient d'inventer cette espèce de stratagème mensonger pour se garder son propre pouvoir à lui. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans le récit, qu'on voit bien que dans ce récit, le serpent, il se présente comme l'ami de l'homme. Lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur de l'homme. Dieu ne veut pas le bonheur de l'homme. Et on comprend bien que l'homme et la femme vont se trouver ici devant un acte de liberté qu'ils vont devoir poser, un choix. Et ce choix, tout simplement, ce sera en qui je mets ma confiance. Est-ce que je mets ma confiance dans la parole du serpent qui me dit que non, tout est possible, et qui fait naître en l'être humain un désir d'infini, un désir de totalité, un désir de toute puissance. Vous serez comme des dieux. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. On voit naître là un désir de toute puissance. Ou bien, alors évidemment, deuxième élément, je mets ma confiance, oui, en celui qui m'a tout donné, même si dans tous ces dons qu'il m'a donné, il y a aussi un interdit, voilà, qui se trouve être, paradoxalement, la limite qui va me permettre de jouir de l'ensemble des arbres du jardin. On y reviendra peut-être après. La suite, vous la connaissez. Bon, l'homme et la femme se laissent séduire. Ils font confiance au serpent. Ils mangent. Et là, évidemment, au lieu que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils connaissent, qu'ils deviennent comme des dieux, possédant la connaissance du bien et du mal, du bon et du mauvais, ce dont ils ont la connaissance, c'est qu'ils sont nus. C'est-à-dire, en ce moment du récit, vulnérables, fragiles. Et voilà que Dieu intervient. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Pourquoi se cachent-ils ? Ils se cachent parce qu'ils ont à eux désormais l'image que le serpent leur a donnée de Dieu. Si je regarde l'ensemble des deux premiers chapitres du récit biblique, jusqu'alors, qu'est-ce qu'il a été dit de Dieu ? C'est que Dieu est un Dieu qui donne. Voilà. Il donne à l'homme et la femme, créés à son image et à sa ressemblance, il leur donne la création, il leur confie la création. Voilà. Il les met au sommet de sa création. Mais évidemment, le serpent a perverti l'image. Voilà. C'est un Dieu qui est tout puissant, mais qui est mesquin, qui veut garder son pouvoir pour lui, qui ceci ou cela. Et là, on nous dit, se cache. Et puis voilà. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Pour le lecteur de ce récit, cette question n'a rien d'inquisitorial. Voilà, c'est la question d'un Dieu qui se préoccupe de savoir où est celui qui l'a créé? Il n'y a rien dans cette question. Simplement, où es-tu? Et là, vous avez, pour la première fois, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis caché. Qu'est-ce qui me paraît intéressant dans ce récit? C'est que la première fois que la peur apparaît dans la Bible, elle apparaît certes comme une peur de Dieu, mais une peur de Dieu qui est à la fois la conséquence de ce que le serpent, je crois que le serpent, voilà, il demeure quelque part, de ce que le serpent a laissé induire de ce qu'était Dieu, de ce qu'il a insinué de ce qu'était Dieu. Et en même temps, la peur, elle apparaît ici parce qu'il y a une rupture. La première rupture, c'est une rupture de la relation avec Dieu. Il y a eu un acte de désobéissance. Et c'est cet acte de désobéissance qui fait que la relation entre l'homme et Dieu, on pourrait dire les humains et Dieu, elle est brouillée. Non pas du fait de Dieu, mais du fait de ce que, parce qu'ils se sont laissés séduire par la parole du serpent, parce qu'ils se sont peut-être aussi, parce qu'ils n'ont pas su gérer ce désir de toute puissance, ou ce désir de totalité qui était à eux, en refusant de consentir au manque et à la limite, voilà. L'homme et la femme, voilà, éprouvent de la peur. Et c'est la peur de Dieu. Car j'étais nu et je me suis caché. La suite du récit est extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Et on devine bien que cela a aussi quelque chose à voir avec la peur, même si le mot n'apparaît pas. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? À la limite, la question de Dieu, là aussi, pourrait être une question, voilà, une demande, tout simplement. Mais que font et l'homme et la femme? Ils vont se disculper. Et ils vont se disculper d'une certaine manière en accusant. Voilà, en accusant. Voilà, le mécanisme de la peur qui conduit à accuser l'autre. Voilà, qui conduit à accuser l'autre. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu commence, en tout cas dans l'homme, d'une certaine manière, commence presque à accuser Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est très intéressant. Jusqu'alors, c'était magnifique. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était l'émerveillement le plus total. Là, c'est fini. La rupture avec Dieu conduit, voilà, qui s'inscrit, qui fait d'une certaine manière, voilà, émerger, si je puis dire, ce qui fait apparaître le règne de la peur. C'est d'abord la peur de Dieu. Mais, voilà, cette rupture avec Dieu va conduire aussi, elle va conduire à une rupture de la relation entre l'homme et la femme. Et en l'occurrence, je vous l'ai dit ici, l'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Donc il se disculpe, mais en accusant, c'est la femme, c'est celle que tu as mise. C'est celle que tu as mise à côté de moi. C'est plus le don de Dieu. Donc on voit bien comment ce premier péché, on a vu dans quel contexte il apparaît, va induire pour la première fois une relation avec Dieu qui est faussée, parce que désormais l'image plein de Dieu, c'est un Dieu dont on aura peur, parce qu'il est, voilà, il ne veut pas le bonheur de l'homme, ce que le serpent a insinué. C'est un Dieu mesquin, c'est un Dieu jaloux de son pouvoir. C'est un Dieu mensonger. Et en même temps, on voit bien comment l'homme ayant peur, voilà, j'ai eu peur et je me suis caché, par l'interrogation de Dieu, l'interrogation divine, de Dieu qui lui dit, mais est-ce que tu as mangé? Il se disculpe en accusant la femme et d'une certaine manière en ne reconnaissant plus quelle est l'aide, voilà, l'aide que Dieu a faite pour lui. Voilà. On va rentrer dans un processus qui sera un processus de méfiance. Et ça ira plus loin. Et la femme, qu'est-ce qu'elle répond? Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'allais manger, et j'ai mangé du fruit. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans la suite du récit, on ne va pas lire la suite du récit, mais dans la suite du récit, lorsque partant de cette première rupture dont on voit, et il me semble qu'il y aurait beaucoup à réfléchir à cette dimension-là, parce qu'on voit que dans le premier récit de création, la rupture avec Dieu induit aussi une rupture entre les humains et une rupture entre l'homme et la femme qui ne se regardent, qui devenu incapable de regarder Dieu, de supporter le regard de Dieu, parce qu'ils perçoivent ce regard comme un regard dangereux pour eux, alors qu'il est d'amour. Et ça, c'est ce que le serpent, voilà, a caché. Eh bien, ils deviennent incapables de se regarder l'un l'autre. Et non seulement ils deviennent incapables de se regarder l'un l'autre, mais le texte biblique ajoutera, eh bien, que la relation entre eux est d'autant plus faussée que désormais, c'est le règne de la convoitise et de la domination qui l'emportera. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Ce n'est plus l'émerveillement initial, c'est le règne de la convoitise, c'est le règne de la domination. Et là, on pourrait s'interroger, voilà, est-ce qu'à la base de la peur, est-ce qu'il n'y a pas souvent, voilà, est-ce qu'il n'y a pas souvent, précisément, des comportements qui sont des comportements de domination ou de convoitise. Voilà. Est-ce que voilà, la convoitise qui fait que désormais la relation à l'autre sera une relation de possession, d'accaparement, voilà, de maîtrise, et la relation de domination, vous le voyez bien, sera une relation où l'autre sera réduit à quelqu'un que l'on domine, que l'on bat, que l'on viole, voilà. En tous les cas, que l'on ne reconnaît plus. Donc, premier récit d'interrogation, c'est un premier récit où dans la Bible apparaît de fait la peur. C'est la première fois qu'apparaît la peur. Et il me semble que cette peur de Dieu, voilà, qui va se concrétiser aussi par ce qu'on a pu voir du stratagème mensonger du serpent. On voit bien que c'est cette peur de Dieu qui va faire que la relation avec Dieu sera faussée, et que par le fait même, c'est pas simplement la relation avec Dieu qui est faussée, et c'est une conséquence du péché, c'est la relation entre l'homme et la femme. Et on entre dans le règne de la convoitise et de la domination. Convoitise et domination qui peuvent aussi bien naître de la peur que l'on a de l'autre, qu'elles peuvent, d'une certaine manière aussi, engendrer la peur. Voilà. Mais on voit bien qu'on est désormais dans une relation qui est une relation de possession, d'accaparement, de toute puissance. Et à la base de cela, c'est une question, en tous les cas, que je pose, à la base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le non-consentement de l'être humain à sa finitude et au manque qui le constitue. Image de Dieu, mais non pas Dieu. Et en même temps, on voit bien qu'à la base de tout cela, il y a aussi le rôle du serpent, du tentateur, voilà, qui vient rejoindre l'être humain dans ce qui pourrait être justement sa difficulté à consentir. Voilà, au manque qui le constitue. Alors on pourrait s'interroger et se demander si beaucoup de peurs aujourd'hui ne naissent pas aussi de cela, de cette difficulté à consentir aussi à la fragilité de ce que, grandeur certes de ce que nous sommes, je dirais aussi à la fragilité, consentir à notre statut de créature, qui fait que nous n'en sommes pas moins fils de Dieu, mais pas Dieu, pas Dieu. Voilà, avec tout ce que cela peut engendrer comme mécanisme de jalousie et de violence. Et qu'est-ce qui est intéressant, si je puis dire, malheureusement, mais quel est le constat que l'on peut faire? C'est qu'après ces trois premiers récits de création, vous le savez comme moi, qu'est-ce que l'on va voir dans la Bible? On va voir, eh bien, la violence. Voilà, la violence se déployer, a commencé d'ailleurs par le premier meurtre de l'histoire, c'est le meurtre d'un frère. Voilà, c'est le meurtre d'un frère. Et c'est là toute l'incapacité de Caïn à accepter que, d'une certaine manière, le bonheur de son frère, et accepter que Dieu, voilà, puisse regarder le présent qu'Abel vient de lui apporter, non le sien. Mais on va vers la violence. Et toute la Bible évoquera cela, mais c'est un autre sujet. N'empêche que vous voyez bien cet engrenage qu'il y a, et vous voyez où pourrait se situer, je dis bien où pourrait se situer la peur, voilà. Mais premier élément, la peur de Dieu. Le deuxième récit que je voulais... regardez avec vous, très rapidement, pour tenir le temps qui est le nôtre, totalement différent. C'est pour ça que j'avais donné comme thème, sujet de ce soir, de la peur à la crainte. Voilà. C'est un récit que vous connaissez tous, c'est le récit de la libération d'Égypte. Un texte fondamental dans la Bible, fondateur, puisque c'est là que Dieu se révèle comme le Dieu sauveur, le Dieu libérateur. Et il s'agit de fait pour des esclaves qui sont esclaves en Égypte de se laisser conduire par ce Dieu à travers Moïse sur un chemin qui est un chemin de liberté. Et c'est dans ce récit que l'on trouve la tension assez étonnante entre la peur et la crainte. Alors, je vous lis simplement, vous allez voir, la peur apparaît dès le début du récit. Voilà, dès le début du récit, elle apparaît dès lors que, eh bien, les Hébreux, qui sont conduits par Moïse, et on peut le comprendre, vous allez voir, dès lors que les Hébreux qui sont conduits par Moïse se trouvent devant l'inconnu d'une libération. Voilà. Devant l'inconnu d'une libération qui va leur faire regretter l'esclavage. Et on va le voir, la crainte suscitée par Dieu, par ce que Dieu vient de faire. Tout commence par des Israélites, vous connaissez l'histoire, ils sont poursuivis par les troupes de Pharaon et ils se trouvent pris en étau. Voilà. Entre d'un côté Pharaon et ses armées, et de l'autre la mer. Évidemment, d'un côté vous avez la mer, voilà, et de l'autre il y a l'armée de Pharaon qui arrive. Et c'est dans ce contexte que, pris de panique, il crie vers le Seigneur. Et il s'adresse à Moïse. Voilà ce que dit le texte. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Pris de peur, ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Manquait-il de tombeau en Égypte, que tu nous aies menés mourir dans le désert? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Qu'est-ce qui est intéressant dans ce récit? On est sur un chemin de liberté ou de libération. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui va vers l'inconnu. Que fait le peuple? Le peuple dit à Moïse, crie à Moïse, sa peur de mourir. Et en même temps qu'il crie sa peur de mourir au désert, il crie son regret du passé. Il était esclave. Et d'une certaine manière, il regrette. Voilà. Il regrette presque l'esclave. Certes, il était esclave, mais il vivait en sécurité, d'une certaine manière. Il y avait les fameux lions d'Égypte. Voilà, tout ce que l'on retrouvera par la suite, d'ailleurs, du récit. Qu'est-ce qui est intéressant à ce moment-là, quand on regarde ce récit? On voit bien qu'en ce moment, certes, où le peuple de Dieu se trouve face à l'inconnu, mais nous le savons, c'est un inconnu de liberté. C'est un inconnu, voilà, qui s'inscrit dans une libération. Ce qui semble emporter, caractériser le peuple, c'est l'enfermement en lui-même. Et c'est l'enfermement dans son passé d'esclavage. À ce stade du récit, je dirais que tout se passe comme si Israël préférait s'enterrer, je dis bien s'enterrer, dans son passé d'esclavage, plutôt que de se risquer dans un futur de liberté. Sans autre futur apparent, je dis bien que la mort, les Israélites se tournent avec nostalgie vers le passé. Et, comme l'écrit André Vénin dans un de ses livres, il dit ceci, « De cette façon, c'est intéressant, ils se font objectivement complices du Pharaon, puisqu'ils regrettent leur ancien maître, qui lui-même regrette ses esclaves. » Mais c'est ce que la peur fait faire. C'est ce que la peur fait faire. La suite, vous la connaissez, c'est une intervention de Moïse qui invite le peuple à ne pas avoir peur et à mettre sa confiance en son Seigneur qui va lutter pour le salut du peuple. Donc on pourrait dire que Moïse va prendre le contre-pied des lamentations de ses compatriotes. Au lieu de regarder vers eux-mêmes, il leur demande de se tourner vers le Seigneur, de se tourner. Au lieu de s'enfermer dans le passé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il leur demande, voilà, de s'ouvrir avec confiance à l'avenir, je dirais, l'avenir, voilà, inattendu qui se présente à eux. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension de nouveauté, qu'il y a une dimension d'avenir et qu'il y a une dimension de risque. Il y a un risque. De la peur, on va le voir, à la crainte, mais en acceptant ce risque, qui est le risque de la confiance, en l'occurrence en Moïse, qui lui-même fait confiance, voilà, et on a donné dans la foi, et c'est la foi de Moïse, ils mettent leur foi en Moïse, qui lui-même met sa foi en Dieu, et qui les invite par le fait même. Et sur la parole de Moïse, les Israélites vont s'avancer vers la mer. Alors, quand on connaît la Bible, vous le savez bien, ils s'avancent vers la mer, c'est-à-dire vers le monde de la mort. Puisque dans la Bible, la mer est le monde de la mort, des monstres marins, des abîmes. Surmontant leur peur, c'est ça qui se... surmontant leur peur. Voilà. Ils mettent leur confiance, voilà, en Moïse, et ils risquent leur vie. Mais on voit bien que ce qui est le moteur ici, c'est l'acte de foi qu'il pose, voilà, en Moïse, et par le fait même, dans le Seigneur, dont ils vont découvrir, mais il a fallu pour cela qu'ils le risquent, dont ils vont découvrir qu'il détient un pouvoir sur la mer. La suite, vous la connaissez, la mer qui se déchire, les Israélites qui la traversent, tandis que les troupes de Pharaon qui les poursuivent sont engloutis. Et voilà qu'arrivé sur le rivage, le rédacteur de ce récit note, et je le cite, « Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens, le peuple, là il ne s'agit pas de peur, mais le peuple craignit le Seigneur. Il crut dans le Seigneur et en Moïse son serviteur. » Et comme l'écrit un auteur qui s'appelle Jean-Louis K, voilà ce qu'il écrit, il dit ceci, « Cette crainte n'est pas la peur de la mort que les Israélites éprouvaient lorsque Pharaon les bloquait d'eau à la mer. Cette peur, ils l'ont dépassée en s'engageant dans la mer à la suite de l'invitation de Moïse. Ne craignez pas. S'il y a crainte, c'est d'une toute autre crainte qu'il s'agit. D'ailleurs, elle s'épanouit en foi, puis éclate en louange, signe qu'elle a changé de nature. C'est à présent, et là il s'agit de comprendre ce qu'est la crainte, c'est à présent le sentiment qui lie le peuple à celui qui lui a permis de franchir ce cap et qui l'a sauvé. Voilà la crainte. La peur, on l'a bien vu, la peur aurait pu paralyser les Égyptiens et les Hébreux, qui finalement, regrettant leur esclavage et la sécurité, somme toute, de certes un esclavage, mais au moins ils étaient en sécurité. Eh bien, la peur qui aurait pu, qui a donné lieu ensuite, plutôt à laquelle s'est substituée la foi en Dieu et en Moïse, a fait que le miracle de la traversée s'est accompli. Et là, la crainte, et que dit la crainte? La crainte, elle dit la relation. On n'est plus dans la peur. La crainte, elle dit, c'est une relation. Alors, je cite, le sentiment qui lie le peuple à celui qui lui a permis de franchir ce cap, crainte salvifique, faite de recul respectueux et d'admiration. Voilà ce qu'est la crainte. Comme on a fait l'expérience de celui qui nous a permis aussi d'aller au-delà de nos peurs, ce qu'a fait l'expérience du peuple de Dieu. Il y a certes le miracle de la traversée de la mer, mais il y a aussi le miracle de la foi, qui permet, d'une certaine manière, à ceux qui étaient apeurés, de faire confiance, et cela peut paraître étonnant, mais d'aller vers la mort. En l'occurrence, ils vont vers la mer. Et là, il y a le miracle. Et donc, on voit bien que le sentiment de crainte, pour reprendre cette belle expression, le sentiment qui lie le peuple à celui qui lui a permis de franchir ce cap, crainte salvifique, faite de recul respectueux et d'admiration étonnée vis-à-vis de celui qui a fait de l'inouï, puisqu'il s'est montré capable de donner la vie à travers la mort. L'itinéraire intérieur d'Israël l'a donc conduit de la peur à la foi, du cri à la louange et à la crainte. Voilà. De la peur à la crainte. Alors on est bien sûr dans un tout autre champ que celui du premier récit de création, mais on voit bien, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit bien un peuple qui est aux prises avec la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu qui paralyse, dont je dirais qu'elle enchaîne parfois plus sûrement que les liens de l'esclavage. C'est en tous les cas le cas dans cet épisode. C'est une peur qui enchaîne. Aux prises avec la peur de l'inconnu, cette peur qu'on vient de voir, le peuple courait d'une certaine manière un autre risque, c'était celui de l'immobilité, de l'immobilisation, de ne pas avancer. Peut-être une pseudo-liberté, celle, oui, des oignons, mais c'était pas la liberté, mais c'était une sécurité. Et j'avais noté cette belle phrase de Paul Beauchamp qui dit ceci: le peuple courait un autre risque, celui de l'immobilisation, d'un semblant de vie, d'une pseudo-liberté, et voilà la citation de Paul Beauchamp, sachant, comme le note Paul Beauchamp, que la vraie mort n'est pas le terme de la vie, elle est ce qui, dès le début, empêche de naître. Mais on est là, entre la peur, la peur qui paralyse, la peur qui est la confiance que l'on va faire en celui qui lui-même a confiance, en l'occurrence Moïse, pour aller et traverser, et traversant en l'occurrence la mer, le peuple va acquérir cette liberté comme un don de Dieu qui le conduira à la crainte. Alors quand on dit la crainte dans la Bible, Vous l'avez compris, ce n'est pas la peur, la crainte, c'est cette relation qui m'unit, qui me lie à celui dont j'ai fait l'expérience, qu'il est un Dieu sauveur, qu'il est un Dieu de liberté, avec ce que cela comporte en même temps de respect, d'admiration, de vénération, et par le fait même, je dirais aussi, ce que cela comporte aussi comme obéissance. Voilà, il y a une forme d'obéissance. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux verset, c'est dans le livre de Job, et pourtant Job se révoltera contre Dieu, lui aussi, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Voilà. Mais on comprend bien que la crainte, c'est aussi ce qui va nous faire aller au-delà de la peur. Parce qu'on a confiance et parce qu'on a compris, voilà, qu'il est celui qui peut faire du neuf, comme le dit Isaïe, chapitre 43, je ne sais plus quel est trop, le verset peut-être 19. Il peut faire du neuf à condition, d'une certaine manière, c'est vrai que voilà, je ne me laisse pas essayer de prendre au piège de la peur qui paralyse, qui enchaîne. Voilà. Et parce que oui, d'une certaine manière, eh bien, elle alimente une pseudo, parfois, de pseudo-liberté ou de pseudo-sécurité. Et la peur d'aller de l'avant. Alors, la peur de l'aller de l'avant, c'est mon troisième récit, tout à fait différent. Oui, j'ai choisi trois textes bibliques, après chacun. Le troisième texte biblique, il s'agit de Pierre. Et il s'agit là aussi de peur. Il s'agit d'un épisode. Alors, il y a souvent de la peur dans le Nouveau Testament, hein. Notamment, vous savez, quand Jésus marche sur les eaux, quand Jésus, les disciples ont peur. La peur apparaît souvent. Mais voilà le passage, pour garder le temps qu'on s'est donné. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Toujours la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme, disait-il. » Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. » Alors le « c'est moi », c'est « ego in me », c'est moi. C'est moi dans le sens du Seigneur. « N'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais remarquant le vent, il eut peur. Et commençant à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut remonté dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es fils de Dieu. Si je m'en tiens à la figure de Pierre, qu'est-ce que je constate dans ce récit? Et ce récit, je ne sais pas si vous le savez, est propre à Matthieu, l'évangéliste Matthieu, est le seul à raconter cet épisode. Si je regarde ce récit, qu'est-ce que je vois? Je vois que Pierre, d'une certaine manière, est le premier à comprendre que face à devant Jésus, qui marche sur les eaux, il ne peut rien de lui-même. Mais il comprend, semble-t-il, que la parole du Seigneur peut lui permettre de réaliser l'impossible. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Donc il y a un acte, à la fois on va retrouver, que je puis dire, l'acte de confiance. Il a compris que le Seigneur peut lui permettre d'une certaine manière, oui, de réaliser l'impossible. Sauf que, vous avez vu la suite, remarquant le vent, il eut peur et commença à couler. Il marchait sur les eaux, il voit le vent. Alors on pourrait derrière le vent mettre beaucoup de choses. Et puis la peur. Et là, il commence à couler. Autrement dit, il suffit, je dirais, qu'il détourne son regard de Jésus, puisqu'on nous dit qu'il remarche le vent, mais le vent, il avait dû le voir avant. Il suffit qu'il détourne son regard de Jésus pour que, pris de peur, devant le vent qui souffle, il se mette à douter et donc à couler. Son cri qui suit, « Seigneur, sauve-moi », manifeste à nouveau sa foi. Elle n'est plus conditionnée par un « si ». « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi ». Et quand on regarde le récit, il eut peur et commença à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi, Kyrie eleison ». C'est l'expression que vous connaissez bien, « Kyrie eleison ». « Seigneur, sauve-moi », c'est ça, ici, en grec. Donc, il manifeste à nouveau sa foi, c'est celle d'un homme apeuré qui, affronté au danger de la mort, s'en remet à Dieu, le seul qui sauve. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce récit ? Ce qui m'intéresse dans ce récit, d'une certaine manière, c'est le fait que Pierre devient capable de l'impossible lorsqu'il met sa foi en Jésus. Capable de l'impossible. Et en même temps, le fait qu'il est tellement fragile lorsqu'il se laisse gagner par la peur. Et vous savez que c'est dans ce même évangile que quelques versets plus loin, puisque là nous sommes au chapitre 14, versets 22 à 33, vous savez que deux chapitres plus loin, au chapitre 16, c'est à ce même Pierre que Jésus confiera son Église, à ce même Pierre. Tellement fragile lorsqu'il se laisse gagner par la peur. Mais à qui rien n'est impossible, dès lors qu'il accepte de mettre sa confiance dans le Seigneur. C'est une autre forme de peur, et vous voyez bien, c'est une autre tension, voilà, entre la peur, voilà, de celui qui, détourne son regard, se laisse gagner par le danger évident dans lequel il se trouve, et qui, mettant son regard sur le Seigneur, ou regardant le Seigneur, alors à ce moment-là, est capable de l'impossible. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce récit? Vous l'aurez noté, c'est que Pierre, d'une certaine manière, ce que j'évoquais quand je disais qu'il est capable de l'impossible, il participe ici du pouvoir de Jésus. Jésus qui marche sur la mer, c'est Jésus qui se montre déjà plus fort, qui manifeste sa seigneurie sur les puissances de la mort et sur les puissances du mal. Pierre qui marche parce qu'il fait confiance et qui n'a pas peur, voilà, pour l'heure. C'est Pierre à qui il est donné de participer au pouvoir de Jésus. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a une chose étonnante dans l'évangile de Matthieu. C'est que dans l'évangile de Matthieu, le moment des apparitions de Jésus ressuscité, on ne mentionnera plus Pierre. Et certains auteurs se demandent si précisément ici, dans cet épisode où Pierre, d'une certaine manière, surmontant dans un premier temps sa peur, voilà, va marcher sur les eaux, parce que le Seigneur lui donne de marcher sur la mer. Pour être ensuite sauvé de la mort, vous avez vu la suite. Aussitôt Jésus tala, il eut peur et commença à en couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus va le saisir, voilà, Jésus va le sauver de la mort. Il me semble qu'il y a ici, on va retrouver ici un peu tous les éléments de ce qu'est Pâques. Pierre bénéficie avant l'heure, voilà, du pouvoir du ressuscité, qui non seulement le sauve de la mort, mais en même temps lui permet, dès lors qu'il surmonte sa propre peur, dans un premier temps, sur sa parole, qui lui permet, voilà, de marcher sur les eaux. Alors, le titre de la conférence était « De la peur à la crainte ». Et on aurait pu s'arrêter là, en imaginant de fait là aussi la crainte de Pierre. Mais, quel est le constat que l'on fait lorsqu'on lit les évangiles? On constate que précisément le ressuscité, qui est à l'œuvre déjà dans ce dernier récit que nous venons de voir, quand il apparaît aux apôtres, apeurés, effrayés, qui se sont enfermés, c'est après la résurrection, qui se sont enfermés, nous dit Matthieu, parce qu'ils avaient peur. Voilà. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Quels sont les mots du Christ? La paix soit avec vous. De la même manière, ce même Pierre, présenté dans les Actes des Apôtres, voilà, comme un des premiers missionnaires de l'Évangile, quand il s'agira de dire la bonne nouvelle de Jésus, il parlera, vous connaissez, de la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Je pourrais vous lire ce passage, c'est à propos du centurion Corneille, la rencontre entre Pierre. « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial », c'est Pierre qui parle, « et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Son message, il a envoyé aux Israélites, pas le message, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Dans cette réflexion qui est la nôtre sur la peur et dont on a vu que dès le début de la Bible, c'est la première fois qu'apparaît la peur, c'est par rapport à Dieu. Et on a vu que l'image de ce Dieu, voilà, insinuée par le serpent, et qui perdure. C'est l'image d'un Dieu tout-puissant, jaloux, mesquin, voilà, qui ne veut pas le bonheur des hommes, alors que le serpent lui se présente comme l'ami des hommes. Voilà. Et nous avons vu à ce moment-là aussi comment le consentement à la limite, le consentement à sa finitude. Sur quoi se termine l'Évangile ? Sur la paix. Et il se termine sur Jésus-Christ, voilà, messager de cette paix que Dieu veut pour les hommes, mais qui n'est pas une paix, bien sûr, à l'image de celle des hommes. Voilà. Vous connaissez ce fameux passage, c'est dans l'évangile de Jean. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Et peu de temps après, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, on peut lire au chapitre 16, c'est toujours dans les heures qui précèdent l'arrestation de Jésus, « Ayez du courage, j'ai vaincu le monde. » De la peur, certes, à la crainte, mais la crainte, on a compris de quelle crainte il s'agit. La crainte, c'est cet émerveillement, cet étonnement qui s'inscrit dans une relation, voilà, avec Dieu, cet événement devant le fait que celui en qui nous mettons notre foi, il est capable de l'impossible. Il est capable de dire oui. À condition, bien sûr, nous l'avons vu avec le peuple hébreu, à condition de ne pas se laisser enchaîner, de ne pas se laisser paralyser peut-être par ses peurs qui finalement pourraient nous faire regretter nos petits esclavages, voilà, par rapport au contraire à cette liberté qui est une invitation, voilà, à aller au large,
pour reprendre une autre expression de Jésus. Et pourquoi parler de la paix? Parce que la révélation biblique, qui en même temps évoque la peur de Pierre, qui évoque la peur des apôtres, qui évoque la peur, voilà peut-être aussi des hommes et des femmes que nous sommes, elle est là pour nous conduire vers une autre intelligence. Une autre intelligence. Et je terminerai, si vous le voulez bien, sur cette prière, qui est une prière d'ailleurs de Pierre. C'est une prière que Paul adresse aux chrétiens de Philippe. Et je voudrais vous la voir. La voilà. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voilà. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que Paul annonce, en tous les cas aux chrétiens de Philippe, une intelligence de la vie, une intelligence des situations, une intelligence aussi de ce que nous pouvons nous-mêmes vivre qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'elle appartient précisément à celui, comme le dit Paul, à celui dont la paix surpasse toute intelligence. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place pour les peurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place pour les difficultés, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place aussi pour le péché, bien sûr. Mais il y a, au cœur même de la révélation biblique, et au sommet peut-être de la révélation biblique, cette annonce par Paul d'une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire d'une certaine manière qui surpasse tout ce que l'intelligence humaine pourrait construire, tous ces stratagèmes parfois que nous construisons nous-mêmes pour nous protéger de la peur. La paix de Dieu qui nous conduit plus loin, et vous savez, cela me revient à l'esprit aujourd'hui, en ce moment, qu'il y a aussi ce très beau verset. C'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, très beau verset de la première lettre de Jean, où finalement Jean dit, même si votre cœur vous condamne, Dieu ne vous condamne pas. Voilà, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et cette paix de Dieu qui s'inscrit bien sûr à la fois dans ce que nous sommes ce soir. Alors, quand même, oui, quand je peux, quand même, voilà, un passage de Benoît XVI, allez, vous allez comprendre, ça rejoint un peu ce que nous sommes dit, voilà. Il est important de savoir ceci, écrit Benoît XVI dans Sauver dans l'espérance, je peux toujours encore espérer, même si apparemment, pour ma vie et pour le moment historique que je suis en train de vivre, je n'ai plus rien à espérer. Seule la grande espérance, certitude, que malgré tous les échecs, et on pourrait dire toutes les épreuves, et nos peurs, ma vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l'amour, et qui, grâce à lui, ont pour lui un sens et une importance. Seule une telle espérance peut, dans ce cas, donner encore le courage d'agir et de poursuivre.
Assurément, nous ne pouvons pas construire le règne de Dieu de nos propres forces. Ce que nous construisons demeure toujours le règne de l'homme, avec toutes les limites qui sont propres à la nature humaine. Le règne de Dieu est un don, et justement pour cela, il est grand et beau, et il constitue la réponse à l'espérance. Merci.
Merci donc à Pierre de Berger. Donc nous prenons 2 minutes pour formuler des questions que nous portons, des questions aussi qui sans doute peuvent concerner ce que nous vivons aujourd'hui. Les chrétiens, nous sommes habitués à lire la Bible comme une parole pour aujourd'hui, pas simplement une parole qui aurait 2000 ans ou plus dans l'Ancien Testament. Voilà, je voudrais préciser qu'il y a une voiture qui voudrait sortir, enfin un chauffeur en tout cas avec une voiture, et il y a 2 voitures qui gênent. Une Honda grise 494 SB65, je pense que le propriétaire ou le chauffeur est dans la salle, et puis une Clio orange AE 851 BX. Voilà, donc si ces deux